nous allons parler de l'information.
MTV. Les journalistes m'intéressent pas.
You are fake news.
Hello.
Il est tout pile 9h40, soyez les bienvenus sur France Inter et dans les 100 M.
Vous coupez ?
Non, je coupe
pas. Vous êtes en direct, allez-y.
Un jeune homme arrêté samedi après un doigt d'honneur à la police, 48 heures de garde à vue, un procès à venir pour outrage. Gaspard Glantz, c'est son nom, fondateur de Taranis News, ancré à la gauche de la gauche, connu pour ses images tournées en immersion dans les manifs contre Notre-Dame-des-Landes, par exemple, ou la loi travail. Gaspard Glantz, par ailleurs fiché S, écope d'un contrôle judiciaire qui lui interdit de paraître à Paris lors des prochains rassemblements. Cela lui vaut le soutien de 22 sociétés de journalistes. Beaucoup y voient une disposition démesurée et une entrave à la liberté d'informer. D'autres s'offusquent de ces protestations. Gaspard Glantz ne serait pas journaliste, mais militant. Pas observateur, mais acteur des mouvements qu'il couvre. D'ailleurs, le numérique permet cela. N'importe qui peut tourner des images et s'exprimer en concurrence, voire en contrepoint des médias. D'où cette passionnante question qui, cette semaine, a ressurgi. Qu'est-ce qu'être journaliste aujourd'hui ?
L'Instant M. Sonia De Villers. Sur France Inter.
Et vaste question d'ailleurs, bonjour Géraldine Mühlmann.
Bonjour Sonia De Villers.
Vous êtes professeure à l'université Paris 2 Panthéon Assas, agrégée de philosophie et de sciences politiques, également diplômée de l'école de journalisme de New York University. Je décline tous vos titres, pourquoi ? Parce que l'idée c'est de fouiller avec vous à la fois le passé et le présent, la pensée et la pratique, la France et les États-Unis. Rien que ça dans une toute petite émission. Voilà, il y a deux ouvrages auxquels je vous renvoie ce matin. Une histoire politique du journalisme qui est parue en poche au Point et du journalisme en démocratie qui a été réédité récemment aux éditions Klinksic. Voilà, Klinksic. En attendant, la semaine médiatique de Bruno Donnet. Bonjour Bruno.
Bonjour Sonia.
Mon compagnon du vendredi, mais vous savez, demain vendredi, c'est un il n'y aura pas d'Instant M, ce sera le jour de la médiatrice des antennes de Radio France. Donc la semaine de Bruno, elle est aujourd'hui. Samedi dernier, Bruno, vous avez regardé une émission de France 3 intitulée Les Grands du Rire, et vous nous dites ce matin que le souci de France Télévisions de produire des programmes toujours moins chers n'a pas franchement que du bon.
Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Voilà très précisément, Sonia, la question que je n'ai cessé de me poser durant les 90 longues minutes au cours desquelles j'ai vainement tenté de comprendre pourquoi France 3 diffusait un machin pareil et surtout quel sens ceux qui le fabriquent avaient voulu lui donner. Alors je vous explique, Les Grands du Rire, c'est un magazine qui est programmé tous les samedis à 13h30 et qu'Yves Lecoq présente depuis pas loin de 3 lustres.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue aux Grands du Rire, votre rendez-vous du samedi après-midi depuis 13 ans sur France 3.
À l'origine, c'était un programme qui, comme son nom l'indique, était destiné à nous faire rire en diffusant des sketchs interprétés par des grands de l'humour. Seulement voilà, samedi dernier, le bidule sur lequel je suis tombé était une sorte d'immense fourre-tout sans queue ni tête, dont l'ambition tenait en 4 syllabes « économie ». Je vous raconte ce que j'ai vu, dans quel ordre les séquences se sont enchaînées, et je jure sur la tête de Coluche et de Pierre Desproges réunis que tout est rigoureusement vrai. Alors voilà, incendie de Notre-Dame oblige, enfin j'imagine, l'émission s'est ouverte avec un extrait de comédie musicale.
C'est un mot qu'on dirait inventé pour
Allait-on nous parler de la cathédrale, de Victor Hugo ? L'émission avait-elle choisi de rebondir sur l'actu ? Non madame, car immédiatement après Garou, c'est un sketch signé Anne Roumanoff qui nous était proposé, un sketch consacré aux déboires des riches, mais dans lequel le président de la République ne s'appelait pas franchement Emmanuel Macron.
Pierre-Olivier Nadji m'a dit « Agnès, si Hollande continue comme ça, il va falloir que tu te mettes à travailler ».
Voilà, et puis immédiatement après ce passage, montage cut et bam, un jingle avec écrit plein pot « Les années disco » et une voix off qui disait ça.
L'histoire du disco, une création de quelques producteurs de disques français qui a fait le tour du monde.
Je vous résume donc le début de l'émission, Notre-Dame de Paris, François Hollande et la saga... Bon, alors vous allez me dire, bah c'est pas compliqué mon vieux, ils ont tout bonnement shippé le concept de la radio rire et chanson. Eh ben non, parce qu'en plus des gags et des chansons, figurez-vous qu'il y a aussi des interviews dans le bousin. Pourquoi ? Eh ben parce que ça coûte que dalle à produire. Et des interviews de qui ? De comiques ? De chanteurs ? Pas du tout. Samedi, il y avait une petite causerie avec un spécialiste de Bonaparte et avec Caroline Pigozzi pour nous parler de son bouquin consacré au président de la 5e République, un livre... comme Yves Lecoq a tenu à le préciser, bien de saison.
On a envie de s'y plonger, c'est un très beau cadeau pour Noël.
Voilà. Alors je rappelle à toutes fins utiles que nous sommes en avril, et que cette interview était donc une rediff, un petit morceau piqué, ni vu ni connu, dans une émission de décembre. Enfin, pour être complet, Sonia, il faut que je vous dise qu'après tout ça, on a aussi eu droit à un petit bout de biscotte extrait de La Cage aux Folles.
Pas, je t'en supplie, ne pleurniche pas!
C'est quand même parce que j'ai cassé ma biscotte!
J'ai cassé ma biscotte, d'accord!
Puis un sketch signé Bernard Mabille.
Oh, le gaz va augmenter, enfin c'est. Moi ça m'arrange pas parce que pour tout vous dire, je voulais me séparer de ma femme au prétexte qu'elle pète au lit.
Alors où est la cohérence dans tout ça? Quelle grande valeur de service public promeut ce programme-là? Et est-ce qu'on est vraiment certain qu'en 2019, les humoristes font encore rire avec des caricatures d'homosexuels ou des histoires de femmes qui pètent? On ne sait pas. Mais la grande question, c'est surtout de savoir si quelqu'un à France 3 regarde encore cette émission avant qu'elle ne passe dans le poste et si la recherche du moindre coup peut suffire à justifier qu'on y dise tout, tout et manifestement n'importe quoi.
Ah voilà, à l'aube de la réforme de l'audiovisuel public. Merci beaucoup Bruno Donnet, à réécouter sur franceinter.fr.
L'instant M, c'est aussi en vidéo sur franceinter.fr.
Je vous propose de réécouter Gaspard Glanz, fondateur du site Taranis News, à sa sortie de garde à vue à lundi, Paris.
Et mon statut de journaliste n'est pas reconnu. Comme je vous répète, j'ai bossé pour tous les micros qui sont devant vous. Mais à leurs yeux, je ne suis pas journaliste. Ça fait 10 ans que c'est la source de mes revenus principaux à 100%. Mon premier acte de journalisme professionnel, ça a été le sommet de l'OTAN à Strasbourg en avril 2009.
Est-ce que vous avez montré votre statut de journaliste?
Oui, bien sûr. Mon statut de journaliste, il est dans le sac, ils l'ont. Voilà, il y a un statut d'auteur à l'INSEE. Donc j'ai un statut d'auteur comme n'importe quel écrivain, comme n'importe quel photographe. Un journaliste, pour être journaliste, il n'a pas besoin d'une carte de presse. Il a besoin d'avoir vendu un certain nombre de fois dans le trimestre aux médias autour de lui. C'est ça qui définit sa profession. C'est pas la carte de presse. La carte de presse, c'est une commission. Certes reconnue par l'État, mais qui n'est pas obligatoire. Et je pense que parmi les journalistes qui sont ici, il y en a beaucoup qui n'ont pas de carte de presse. Vous avez une carte de presse?
Oui.
Vous avez une carte de presse?
Non.
Vous avez une carte de presse? Non. Monsieur est photographe à Libération quand même. Hein.
voilà. Voilà, moi non plus, je n'ai pas de carte de presse. Vous en avez une, Bruno?
Oui.
Oui, voilà. Eh bien, lequel de nous deux est journaliste? Lequel ne l'est pas? L'arrestation de Gaspard Glanz, son contrôle judiciaire et la vague de protestations qu'ils ont déclenchée posent l'épineuse question de la définition du journalisme. Vous, vous y êtes attelé très sérieusement, Géraldine Mühlmann, écrivant non pas une histoire du journalisme politique, mais une histoire politique du journalisme, c'est bien différent. D'ailleurs, en quoi la définition du journalisme est-elle une question politique?
La question que je pose, qui n'a strictement rien à voir avec la carte de presse, c'est de savoir à quoi ça sert un journaliste dans une société démocratique et en quoi son regard réalise des gestes politiques, en particulier deux gestes qui m'intéressent beaucoup. Le premier est celui de rassembler un public à travers un regard. Et le deuxième est, en un sens opposé, mais complémentaire, il est le geste de décentrer un public, de lui montrer autre chose, quelque chose qui le perturbe et qui le défait comme un nous bien rassemblé. Donc, sont ces deux gestes à la fois contradictoires et complémentaires et parfois leur imbrication qui m'intéressent dans mon travail de chercheuse sur le journalisme.
Alors comment cerner la place que tient l'opinion et l'opinion politique dans la pratique du journalisme? Je vous propose de remonter, comme vous l'avez fait, au fondement du journalisme moderne, c'est-à-dire au 19e siècle. Quelle est la place tenue par les discours par rapport aux faits au début du journalisme? Et est-ce que cela a évolué? Comment cela a évolué, Géraldine Mühlmann?
On peut dire que le journalisme est né dans l'idée de donner autre chose que du discours et de l'opinion. Je parle du journalisme moderne, c'est-à-dire de celui qui est né au milieu du 19e siècle. Avant, il y avait une presse d'opinion qui existait avec des tribunes, avec des critiques aussi, avec des éditoriaux, qui est une forme ancienne et très noble. Mais la presse d'information, qui naît au milieu du 19e, décide de donner des histoires, des récits, et non plus seulement des discours, comme le sont des morceaux d'opinion. Et pour cela aussi, avec une attention extrême à la notion de fait, qui est une notion problématique, je n'ai jamais dit qu'elle était simple, mais elle est très importante. Il existe quelque chose comme une texture factuelle. Lorsqu'on se rend sur place, on ne voit pas tout, on ne voit pas comme un narrateur omniscient, mais on perçoit des choses, y compris dans son corps, par ses sens.
Quand on se rend sur place, c'est l'émergence de la fonction du reporter.
C'est l'émergence de la fonction du reporter. C'est autre chose, une autre forme journalistique, du récit et non plus du discours. Un autre rapport au public aussi, dont on s'installe Bilal comme avec un mandat qui va pas très bien aujourd'hui, même qui va très mal, mais qui est un mandat historique. Cette idée du témoin ambassadeur. Je suis votre ambassadeur, je suis là pour vous et j'y suis comme témoin, c'est-à-dire je vais essayer de mentir le moins possible. J'ai avec mon corps, certains corps singuliers, mais je vais essayer de vous raconter ce qui se passe comme autant que possible, comme n'importe lequel d'entre nous le raconterait s'il était là sur place. C'est un peu ça le mandat, la confiance avec le reporter qui se tisse et qui fonctionne ou ne fonctionne pas. Elle ne fonctionne plus très bien.
Plus très bien. Alors en quoi font remarquer certains, Gaspard Glanz serait-il plus engagé, plus idéologiquement marqué qu'un journaliste de Valeurs Actuelles, qu'un journaliste du Figaro ou qu'un journaliste de Libération dans certains combats menés par ces médias-là? L'empreinte idéologique d'un journaliste est-elle dans l'histoire du journalisme quelque chose dont la perception a changé en fonction des époques? Quelque chose qui porte le discrédit ou au contraire quelque chose qui porte haut la fonction du journaliste?
Alors d'abord, là maintenant, après ce qu'on vient de dire, journaliste, ça veut dire reporter, d'accord? Parce que si on dit journaliste, et on peut le dire, éditorialiste, il n'a pas besoin d'aller sur le terrain, ou même faire une news analysis, comme on dit en anglais, une analyse, on n'a pas besoin d'aller sur le terrain. Ce sont d'autres formes de journalisme plus anciennes. Mais si on parle du reporter, il y a toujours eu historiquement des reporters qui avaient accès à des lieux, privilégié au sens où il fallait un lien particulier aux gens qui constituent ce milieu pour pouvoir y aller. Et donc ça s'appelle souvent de l'engagement et de l'engagement militant. Et ça existe à droite, à gauche, mais aussi au-delà de disons de cette classification politique, il y a des milieux sociaux où vous avez accès ou pas, où c'est plus ou moins difficile. Bon. Moi, c'est ça que j'appelle l'engagement, avec éventuellement une armature idéologique première qui permet d'accéder à certains mondes en tant que reporter. Pour moi, c'est possible, ça a toujours existé. Au fond, on pourrait dire que Libération, qui naît en 1973 en France, est un journal qui décide de donner la parole à des gens qui, d'après ses fondateurs, ne sont pas entendus dans le système médiatique de l'époque. C'est un journal gauchiste, comme le dit Sartre, qui dirige la première rédaction, première publication, et qui dit « mais attention, je voudrais que ce soit du bon gauchisme, pas du gauchisme qui, je le cite, soit dans l'esprit de groupuscule, où on soit entre soi, etc. » Ce qui prouve d'ailleurs que l'engagement n'est pas toujours journalistiquement quelque chose de formidable, mais l'engagement peut être quelque chose de formidable. Vous voyez ce que je veux dire? L'engagement, c'est une condition de départ qui peut exister, mais qui ne garantit en rien la qualité. Et Sartre lui-même disait, si c'est pour faire du gauchisme esprit groupuscule, ça va donner un très mauvais journal. D'ailleurs, en 79, il dira, vous avez fait un journal c'était très très sévère. Il dit, ça a été le magazine de Suzette, un peu ouvriériste. C'est, excusez-moi, mais ça m'a pas beaucoup plu. C'est pas très gentil de sa part, mais il le dit. Et d'ailleurs, c'est en partie vrai et en partie faux. Il y a eu du bon et du moins bon à cette époque-là. Mais ce qu'il appelle le bon gauchisme à l'époque, c'est essayer d'y aller et de créer de la conflictualité. C'est-à-dire de faire droit à des points de vue qu'on n'entendait pas et qu'on ne voyait pas, mais aussi les regarder, les faire dialoguer ensemble et finalement impliquer aussi le fameux dominant dont on veut se distinguer, le public ordinaire, le système médiatique. Michel Foucault, par exemple, au printemps 73, fait un entretien avec un ouvrier de Renault et dit, moi, mon but, c'est pas de lui parler ouvrier ou de viser une espèce d'essence de l'ouvrier. Mon problème, c'est de créer un échange entre ce qu'il dit et les gens qui vont nous lire et le reste du système médiatique. C'est un système d'échange avec du conflit et du lien. Et donc, vous voyez, l'engagement, ça peut être un point de départ. Ça peut donner du mauvais journalisme. Ça peut donner du très bon journalisme.
Alors, la question maintenant, c'est qui participe à ce système d'échange, puisque ça, la donne a légèrement changé aussi. Le journalisme est-il défini, Géraldine Mühlmann, par le progrès technique qui lui permet d'exister? C'est-à-dire, est-ce que le télégraphe, le chemin de fer redéfinissent le journalisme au 19e siècle comme le web redéfinirait ensuite au 20e siècle le journalisme? Est-ce que ça change seulement les conditions de transmission de l'information et de diffusion de l'information, ou est-ce que ça change plus que la pratique? Est-ce que ça redéfinit le statut du journalisme et même le statut du journaliste?
Ça va continuer à déprofessionnaliser un petit peu ce métier, qui s'est professionnalisé à partir de la fin du 19e. La carte de presse, c'est les années 1930 en France, mais ça existe pratiquement dans peu de pays, hein, oui. Mais ça existe chez oui. nous. Il se trouve que le métier de reporter, à un moment donné, s'est construit, il est apparu, puis s'est construit, puis c'est devenu un métier avec une profession et donc des formes de définition. Il se trouve que le web a permis d'abord à plein de reporters professionnels de donner plein de choses sur le web au début. C'est, moi, mm-hmm. j'ai trouvé la période mm-hmm. des blogs très intéressante.
Donc ça a changé la pratique.
C'est-à-dire voilà. qu'ils pouvaient donner que, je sais pas moi, quelques feuillets. Ils en donnaient le triple sur mm-hmm. leur blog. Mm-hmm. Voilà. Donc toute une sorte de complément. Et puis ça a permis à des gens de faire du reportage alors qu'ils n'étaient pas des reporters officiels.
C'est ça. Donc ça a donné les outils du journalisme oui. à tout un oui. tas de citoyens.
Absolument. Mais il y a une question, elle, qui va rester la même. Exactement mm-hmm. la même. Qu'est-ce que c'est que du bon journalisme ? C'est une question qui est peu traitée.
Mais avant cela,
Que c'est que du mauvais
mais... Alors, du bon et du mauvais, mais avant cela, Géraldine Moen, ça repose la question toute simple, c'est qu'est-ce que c'est qu'un journaliste ? Puisque n'importe qui peut s'emparer des outils, alors quelle est la différence ? Quelle est la ligne de démarcation ? Quel est le critère qui fait que l'approche est journalistique et qui fait que c'est sous la plume ou sous la caméra d'un journaliste ou d'un non-journaliste ?
Peu importe que ce soit un professionnel ou pas, mm-hmm. Je pense que ça, il peut y avoir des choses journalistiques très très intéressantes sous mm-hmm. la plume de non-professionnels et mm-hmm. inversement, des choses très moyennes, pas faites par des professionnels. Pour moi, un bon journaliste, c'est quelqu'un qui introduit donc un regard, hein, qui fait voir quelque chose, que ce soit par du texte, par de la vidéo, par de la photo.
Qui rend visible
quelque mm-hmm. chose.
Donc, qui rend visible une réalité factuelle.
Et ce visible, ouais. oui, une réalité factuelle, mm-hmm. J'y tiens, donc qui n'est ouais. ni totale, ni parfaite, mm-hmm. Qui est partielle, par définition. Et cette chose-là, par les choix qu'il a fait, par les possibilités qu'il a eues, par la manière de la mettre en scène, parce qu'il y a une écriture, même dans une photo, une vidéo, il n'y a pas de l'écriture uniquement dans l'écriture textuelle, produit quelque chose de politiquement intéressant. C'est-à-dire que il sollicite un nous derrière le reporter. Il dit, nous confrontons là à quelque chose qui nous parle de nous. Ça, je pense que c'est quelque chose d'intéressant. Mmh. Et l'autre geste qui m'intéresse, c'est je vous confronte, c'est pas nous, c'est je, reporter, vous confronte le public à quelque chose à quoi vous ne vous attendiez pas et qui vous perturbe. Mmh. Je pense que ces deux gestes, qui sont un peu contradictoires, l'un rassemble, l'autre décentre, sont des gestes constitutifs de ce qui est politique au sens large du terme. Dans
alors justement, ce sont des gestes politiques, mais la critique du journalisme est-elle aussi éminemment politique ? Géraldine Mühlmann, vous y consacrez même un chapitre entier, c'est-à-dire comment critiquer les médias, comment critiquer le journalisme en restant fidèle à la démocratie. Puisqu'on voit bien qu'il y a un pan de la critique du journalisme qui finalement est une critique de la démocratie, au fond.
Le journalisme est né dans la haine. C'est un métier qui a toujours été détesté. C'est un métier, enfin un métier, avant d'être un métier, c'est une pratique. Oui. Parce que c'est dérangeant. Il y a cet aspect politique que je dis qui ne peut pas laisser neutre, mm-hmm. qui peut déranger, ou au contraire être mm-hmm. adoré. Je suis contre aussi les adorateurs, hein, je pense que ça fait pas du bien au métier. C'est quelque chose qui est comme tout ce qui se donne dans l'espace public, critiquable. Donc, pour ma part, je pense que je vais exprès plagier quelqu'un, la critique du journalisme est juste et saine.
Jean-Luc Mélenchon, sauf que Jean-Luc Mélenchon n'utilise pas le mot critique, Géraldine Mühlmann, il dit la haine des médias.
Je le sais parfaitement et c'est pourquoi j'ai transformé sa phrase. La haine du journalisme, c'est autre chose
que la critique.
C'est très ancien aussi, ça a juste changé de lieu. Mmh. On peut dire qu'au 19e, beaucoup d'élites manifestaient une haine de qui venait parfois aussi de la haine des Lumières. Mmh. La peur de ce regard qui va partout, qui ose aller partout, qui n'a pas de limite, etc. Soulevant parfois des vraies questions, mais aussi tout simplement une répulsion. Aujourd'hui, ce qui est tragique vraiment, c'est que nous avons une haine qui vient de milieux populaires. Et c'est aussi pour ça que c'est important ce que fait Gaspard Glantz. Parce que tout le monde n'a plus accès à des lieux où les journalistes sont détestés, sont véritablement détestés. Donc ça fait partie de mes désespoirs actuels. Je pense qu'il n'y a plus beaucoup de journalistes qui peuvent aller vraiment partout.
Merci beaucoup Géraldine Mühlmann. Discussion que nous allons poursuivre dans cette émission prochainement. Du journalisme en démocratie est donc sorti aux éditions, réédité aux éditions Klinksyk.